L'actualité est un miroir déformant. Les événements y sont traités comme des moments inédits, des ruptures avec le passé, alors qu'ils s'inscrivent souvent dans des tendances de long terme. Ainsi, les nombreux témoignages en ce début d'année à propos de l'inceste. Cette libération de la parole, salutaire, ne vient pas de nulle part. Elle accompagne un mouvement amorcé à la fin des années 80, qui a vu la question de la sexualité au sein de la sphère familiale et ses interdits devenir un sujet de société, c'est-à-dire un sujet dont on débat en société. Pendant très longtemps, il n'en fut pas question. Ce qui se passait au sein de la famille devait y rester. Porte close, fermée à double tour, le linge sale ne se lavait pas en public, mais à l'abri des regards, dans l'arrière-cour. L'obsession n'était pas celle de la vérité, mais de la respectabilité, une logique d'action fondée sur l'honneur, et que le code de la famille napoléonien a contribué à forger au début du 19e siècle. C'est ce que m'a longuement expliqué hier une des meilleures spécialistes de ce sujet, la sociologue Irène Thierry, que je remercie au passage pour m'avoir aidé à mettre des mots sur une intuition, à savoir que les prises de parole de plus en plus nombreuses autour de l'inceste, du viol conjugal, mais aussi des orientations sexuelles, que ces prises de parole disent quelque chose de la façon dont la famille est aujourd'hui structurée. Mais revenons à Napoléon et au Code civil, publié en 1804. Comme on peut le lire sur le site viepublique.fr, le Code napoléonien, en instituant l'incapacité juridique de la femme mariée, consacre l'infériorité de la femme face à l'homme. Au nom de la famille et de sa stabilité, les femmes sont soumises à l'autorité du mari et les filles à celle du père. Celles-ci ont l'obligation d'être convenables en toutes circonstances. Les atteintes à la morale bourgeoise sont réservées aux femmes de mauvaise vie. Cette obsession de la respectabilité va nourrir les secrets de famille, enfermant celles et ceux qui en sont détenteurs dans un silence assourdissant. Et ces secrets sont de trois ordres. Ceux liés aux origines, selon lesquels un enfant ne peut pas avoir été conçu par d'autres personnes que ses parents. Ceux liés aux filles-mères, coupables d'avoir fauté hors mariage, ceux enfin liés à l'inceste, l'inceste qui, lorsqu'il a lieu, est une sorte de fatalité honteuse. Cela revenait, me dit Irène Thierry, à entériner l'idée qu'il y avait une sexualité masculine naturellement prédatrice. Alors, les années 70 vont bouleverser ce schéma familial. La notion de chef de famille disparaît, père et mère exerçant à égalité l'autorité parentale. Le mariage est désacralisé avec le divorce par consentement mutuel. L'institution familiale, figée dans le seul modèle patriarcal, hyper hiérarchisé, se diversifie et s'ouvre sur l'extérieur. Ce qui était relégué dans l'espace privé s'invite à présent dans l'espace social. On peut donc considérer que les prises de parole actuelles, encouragées par la publication du livre de Camille Kouchner, s'inscrivent dans un processus plus long d'émancipation, à la fois émancipation des femmes, mais aussi émancipation des membres de la cellule familiale. Celle-ci a perdu de son pouvoir castrateur. On pourrait même parler d'une démocratisation de la famille qui rend possible aujourd'hui l'existence de ces nombreux témoignages. Je cite une dernière fois Irène Thierry. Les jeunes générations ne veulent plus que les questions d'intimité soient des lieux d'impunité. Alors, ce n'est peut-être pas une révolution, mais c'est une vraie transition.